France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT Sandin de Hausi.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour entre l'Europe et les États-Unis.
European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly, they rip us off, it's so sad to say.
Voilà, c'est it's Donald so Trump pathetic. Le 2 avril dernier, hein, le fameux jour de libération qui dit pique-pendre de l'Europe. Très dur, pas sympa non plus. Bonsoir Benjamin Haddad.
Bonsoir.
Vous êtes ministre délégué chargé de l'Europe. Si vous étiez venu il y a une petite dizaine de jours seulement, Benjamin Haddad, c'est de ça dont on aurait parlé probablement. Et aussi de la crise économique mondiale. Si vous étiez venu il y a moins d'une semaine, on aurait parlé des 90 jours désormais, mais d'une escalade avec la Chine. Si vous étiez venu avant-hier, on aurait parlé de la reculade de Trump sur la tech vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, nous en sommes donc toujours à 10% flat pour tout le monde, 25% sur l'acier et l'aluminium. Donc tout ça, c'est toujours très haut, mais à chaque fois, c'est Trump qui recule. Et au fond, la question que j'ai envie de vous demander, alors que le commissaire européen est à Washington en ce moment avec son homologue, c'est est-ce qu'il faut vraiment négocier avec les États-Unis qui disent tout ou son contraire ? Qu'est-ce qu'on risquerait à les laisser faire et à attendre 90 jours pour voir ce qui se passe derrière.
Bien, la réponse, c'est qu'on doit faire les deux. On doit négocier, et on l'a dit, qu'on est prêt à avoir un dialogue sur la relation économique avec les États-Unis, mais qu'on a aussi une réponse très ferme, très forte, qui est prête pour pouvoir riposter si on continue à être dans l'escalade sur les droits de douane. Les droits de douane américains, il faut quand même le dire, hein, ceux qui ont été imposés par l'administration Trump, ils sont totalement injustifiés et ils n'ont aucune espèce de fondement sur la relation réelle entre l'Europe et les États-Unis. Je veux le dire, parce qu'on calcule le déficit commercial des États-Unis sur les biens, mais on ne compte pas les services numériques américains, sûr. Par exemple, qui sont présents aux États-Unis, en Europe, pardon. On inclut un certain nombre de taxes, par exemple la TVA, qui est considérée par l'administration américaine comme un droit de douane, alors que pourtant c'est une taxe que paient les entreprises européennes comme les entreprises étrangères qui sont sur le sol européen. Donc tout ça n'a aucun rapport. Et puis, surtout fondamentalement, le déficit américain vis-à-vis de l'Union européenne, il n'est pas lié à des tarifs douaniers de la part de l'Union européenne. Il est lié à un modèle économique américain qui est un modèle de demande intérieure, de consommation, qui a été dopé d'ailleurs largement par de la dette, y compris au niveau des ménages, des individus. Donc tout ça n'a aucune espèce
mais
de
fondement. Mais du coup, est-ce qu'on sait ce qu'il attend de nous ? Est-ce que vous savez, très honnêtement, est-ce que vous savez dire à votre interlocuteur voilà ce que nous, on peut vous proposer ? Qu'est-ce qu'il attend de nous, en fait ? Qu'est-ce qu'il attend qu'on vous dise, que vous disiez ?
Mais de toute façon, là, on aura le commissaire au commerce extérieur, Sefcovic, qui sera aux États-Unis, mais la question c'est surtout ce qu'on attend, nous. Mm-hmm. Nous, on attend de revenir à une relation économique et commerciale normale avec les États-Unis. Vous l'avez mentionné, on est revenu au même droit de douane que le reste du monde, c'est-à-dire à 10%, on a toujours 25% aussi sur l'acier et l'aluminium. Bon, alors, tant mieux, on a vu forme d'apaisement ces derniers jours, donc il faut s'en réjouir pour pouvoir engager un dialogue. Mais fondamentalement, il ne faut pas, là il faut quand même être assez clair, on n'est pas revenu à une situation normale. Il ne faut pas entériner cet état de fait comme étant la situation économique commerciale normale entre l'Europe et les États-Unis. D'où une très grande vigilance de notre part, et ce que nous avons répété, c'est les messages que nous faisons passer aussi à la Commission européenne, et c'est pour ça qu'on sera capable de répondre de façon vraiment absolument déterminée pour frapper l'économie américaine en cas d'échec du dialogue politique.
Donc, le dialogue que vous avez avec les États-Unis en ce moment, c'est à l'envers, c'est-à-dire c'est de dire, voilà ce qui se passe si vous ne remettez pas les droits de douane là où ils étaient. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça le dialogue de l'Europe en ce moment avec les États-Unis ?
Mais c'est de dire que nous, on a envie de commercer, d'avoir une relation économique normale avec les États-Unis, encore une fois. Et d'ailleurs, quand on voit les conséquences sur l'économie, sur les marchés boursiers, sur les entreprises américaines, on voit bien que les droits de douane, le protectionnisme, c'est l'intérêt de personne et que ça frappe en premier lieu les États-Unis et les consommateurs et les ménages américains. Et donc, nous, on s'est donné les moyens de pouvoir répondre. L'Europe est forte, et l'Europe d'ailleurs a renforcé ces dernières années ses instruments de défense commerciale. Est-ce qu'on a déjà eu ça lors du premier mandat de Donald Trump, où on s'était défendu, on avait riposté, et c'est ce qui avait permis de désescalader. Entre-temps, on s'est doté d'autres instruments pour faire face précisément à ce type de situation, comme le fameux instrument anti-coercition, qui permettrait de taxer les services numériques ou les pubs des services numériques, qui permettrait d'exclure les entreprises américaines de certains marchés publics européens, qui permettrait aussi de saisir la propriété intellectuelle, donc qui étend le champ notamment au service de ce que l'Union européenne peut faire pour se défendre. Donc nous, on est prêts à se défendre, mais on préfère le faire par un dialogue politique. Mais les deux sont liés, vous voyez, c'est la négociation à avait appuyé sur un rapport de force.
Mais donc, si les États-Unis, parce que c'est ce qu'on entend, veulent essayer d'abaisser certaines barrières douanières, notamment sur tout ce qui est non tarifaire, on pense par exemple aux GAFAM, on pense aux politiques de confidentialité, etc., que les Américains ne supportent pas. Donc, s'ils arrivent en disant il va falloir jouer sur le non tarifaire, est-ce que vous êtes prêt à dire il n'est pas question d'assouplir la moindre restriction sur certaines exportations américaines?
Mais on ne va pas changer notre état de droit européen sous pression commerciale des États-Unis. Ce à quoi vous faites référence, le DSA ou le DMA, ouais. Ce sont des règles dont s'est dotée l'Union européenne ces dernières années. Digital Service Act, Digital Market Act. Ce sont des règles dont s'est dotée l'Union européenne ces dernières années face aux géants du numérique. Digital Service Act pour lutter contre la haine en ligne, la désinformation, la manipulation des algorithmes, plus urgent que jamais quand on voit par exemple le rôle que joue la Russie sur les réseaux sociaux dans les élections en Roumanie ou en Moldavie. Et le Digital Market Act pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, monopolistiques de la part de géants du numérique. Ça, c'est notre état de droit. On ne va pas changer nos propres règles pour protéger nos marchés ou protéger la liberté d'expression et la lutte contre la haine sur les réseaux sociaux pour, face à la coercition commerciale des États-Unis. Et d'ailleurs, je voudrais souligner qu'à cet égard, la présidente de la Commission européenne, il y a quelques jours dans une interview sur ce sujet, a été extrêmement claire. Donc ça ne fait pas partie de la négociation.
Donc je vous entends, mais il n'y a pas de négo, du coup. Est-ce qu'il y a une négo? Et s'il y a une négo, elle porte sur quoi, en fait? Encore une fois, de quoi on leur parle? Ou est-ce qu'on leur dit simplement, non, retour à la case départ?
Mais effectivement, on leur dit que ces tarifs sont injustifiés, qui n'ont aucune espèce, encore une fois, de fondement sur la relation commerciale entre l'Europe et les États-Unis, et que nous avons les moyens de réagir et de nous défendre et de se faire respecter. C'est comme ça que l'Union européenne, vous savez, c'est 450 millions d'individus, c'est le plus grand marché unique intégré au monde, et en plus, largement sous l'impulsion de la France ces dernières années, elle est sortie de la naïveté commerciale et s'est dotée d'instruments pour pouvoir se défendre, parce qu'il y a quelques années, on n'était pas capable de le faire. Il y a quelques années, on attendait les jugements de l'OMC, parfois des recours interminables, une organisation qui a été quand même très largement affaiblie, voire vraiment détruite sous les coups de boutoir des administrations américaines républicaines comme démocrates. On n'était pas capable aussi de protéger les États qui pouvaient être sous pression de la part de la Chine, comme ça avait été le cas de la Lituanie. C'est pour ça qu'encore une fois, aujourd'hui, on a ces instruments de défense commerciale. On sera prêt à les utiliser si la négociation, si le dialogue politique échoue avec les États-Unis. Ce que je constate encore une fois, c'est que cette administration est aussi sous pression au niveau intérieur, parce que on voit bien le protectionnisme. On a eu des exemples dans les années 30, hein, où on avait déjà eu Hallie Smoot, aussi des dérives protectionnistes de la part d'administrations américaines qui avaient mené à des guerres commerciales, qui a été une catastrophe économique pour les États en question, à commencer par les États-Unis. Ça avait renforcé à l'époque la Grande Dépression. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Je crois que l'administration commence à s'en rendre compte. À nous aussi de faire passer ce message et de dire que nous souhaitons commercer. Après, le deuxième point que je voudrais rajouter, c'est que fondamentalement, la question que nous devons nous poser aussi en Européen, c'est d'investir dans notre propre compétitivité, dans notre propre attractivité. C'est le moment précisément de nous rendre moins dépendants des turbulences géopolitiques et économiques mondiales et de faire de l'Union européenne, alors qu'on voit l'incertitude sur la Chine et sur les États-Unis, de faire l'Union européenne la zone numéro un pour les investisseurs, pour les innovateurs, pour les créations d'entreprises dans le monde. Alors, ça passe par de la simplification, ça passe par l'approfondissement du marché unique avec un régime des droits des affaires intégré, ça passe par un soutien massif à nos innovateurs et à nos industries, à changer aussi les règles de concurrence et d'aide d'État. Il y a tout un volet qu'on voit dans les rapports Draghi et l'État, qui est poussé là aussi par la France, qui est une autre réponse, pas seulement défensive, mais au contraire, ambitieuse, innovante face à ces défis.
Deux choses. D'abord, 90 jours, effectivement, c'est le temps de voir pour nous comme pour eux, et de voir surtout pour nous si on joue à 27. Est-ce que Giorgia Meloni, par exemple, qui va à Washington jeudi, il va pour son propre compte, est-ce qu'elle y va pour le compte des Européens? Est-ce qu'elle a un message européen à transmettre? Ou est-ce qu'elle est en train de le jouer perso de son côté?
Je crois que c'est très important de rester unis et de faire passer des messages européens. Aucun État n'a intérêt à y aller.
Sauf qu'elle y va. Donc,
alors, encore une fois, on verra ce qu'elle aura à dire. Moi, j'ai entendu les dirigeants italiens qui disaient qu'ils y allaient au nom de l'Union européenne pour faire passer ce même message d'unité. Je pense que c'est très important, en effet, de ne pas se disperser, de rester extrêmement unis dans ce moment. Le président Trump, d'ailleurs, a dit lui-même qu'il négocierait avec la Commission européenne, puisqu'on a une politique commerciale qui est intégrée. Nous, on a des échanges réguliers, bien sûr,
honnêtement, c'est ce qu'il dit,
avec nos partenaires.
Est-ce qu'on a confiance aujourd'hui dans les Américains s'ils ont envie de faire un accord isolé avec Giorgia Meloni? Franchement, on sait très bien qu'ils le feront, non?
Mais c'est vraiment là un exemple typique du moment où nous sommes plus forts en Européens. Mais vous voyez bien, on a 450 millions d'individus, un marché unique intégré, 27 États qui peuvent avancer ensemble et qui ont des instruments pour pouvoir se faire respecter au niveau européen. Mais du coup, si on veut pouvoir avoir une négociation, mais qui est appuyée sur un rapport de force, bien sûr qu'on a intérêt à aller au
niveau
européen.
Mais est-ce que typiquement, il y a eu
cette situation, elle dément. Typiquement, tous les discours des populistes, des nationalistes, comme Marine Le Pen, le Rassemblement National et les autres depuis des années, qui nous expliquent qu'il faut revenir à des solutions nationales, qui nous expliquent qu'il faut faire le Frexit ou sortir des mécanismes européens. Aujourd'hui, on serait profondément affaibli, divisé, on n'aurait aucun moyen de se défendre et on serait dans la soumission et l'affaiblissement.
Je vous entends, Benjamin Haddad, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un coup de fil, par exemple, entre Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni, pour lui dire attention à ce que tu vas faire jeudi avec Donald Trump?
En ce moment,
est-ce qu'on a besoin de faire ça avec Giorgia Meloni?
Les dirigeants européens se parlent, échangent beaucoup. Vous savez que le président de la République échange régulièrement aussi avec le président Trump sur des sujets comme l'Ukraine, comme sur la Russie, avec les dirigeants européens. Donc il y a ces échanges. Et encore une fois, nous, le message que l'on fait passer, et c'est aussi le message d'ailleurs de la présidente de la Commission européenne, c'est un message d'unité, de fermeté, de garder son sang-froid, d'être capable de riposter le cas échéant. Mais nous avons tous intérêt à avancer en européen. C'est la meilleure façon de défendre nos intérêts collectifs comme individuels.
L'Europe n'a pas répondu à l'appel du pied de Pékin qui dit « résistons ensemble ». Est-ce qu'il y a moyen de s'en faire un allié, selon vous? Peut-être en mettant un certain nombre de garde-fous, effectivement, éviter que l'Europe devienne la piste d'atterrissage, si j'ose dire, des marchandises chinoises. Mais est-ce que cet appel du pied, il peut être entendu par l'Europe?
Mais votre dernier point, il est très important. Faisons attention aussi à ce qu'on respecte des règles de commerce équitable et que nous ne devenions pas les récipiendaires de produits qui pourraient aussi faire l'objet de subventions massives, de pratiques de commerce déloyales de la part de la Chine. Donc il y a ces deux éléments. Il y a à la fois la réponse vis-à-vis des États-Unis, il y a aussi la protection de notre marché vis-à-vis d'autres partenaires commerciaux, à commencer par la Chine. C'est aussi le message que nous avons fait passer à la Commission européenne. Vous savez que la Commission européenne a adopté, par exemple, il y a quelques mois, des barrières douanières sur les véhicules électriques chinois qui venaient en Europe, parce que nous avons pu constater qu'ils ne respectent pas des règles de concurrence équitable, parce que vous avez un secteur là qui est massivement subventionné par la Chine. Donc là aussi, il faut être extrêmement prudent, vigilant. C'est une opportunité, bien sûr, pour diversifier les partenaires commerciaux, pour se tourner, pourquoi pas, vers d'autres, pour approfondir nos relations. Mais il faut toujours le faire avec une seule boussole, qui est la défense de nos intérêts, la défense de nos entreprises, de nos économies, de notre souveraineté, de la réduction de dépendance. Donc, ne faisons pas passer une dépendance à une autre. Le plus important, encore une fois, c'est là de défendre, d'assurer l'autonomie stratégique de l'Europe.
Alors, autonomie stratégique de l'Europe, et vous le disiez, il faut que personne ne se la joue perso, mais est-ce que vous pensez que le Mercosur n'est pas finalement si mal, on va dire, au regard de ce nouveau contexte? Je vous pose la question parce qu'on finit par être les derniers, en fait. L'Autriche, qui était encore un pays disant non, le Mercosur, c'est pas une bonne idée, finalement, désormais, y est plutôt favorable au regard du contexte. Est-ce que nous aussi, au regard du contexte, on change d'avis sur ce genre de choses?
Non, parce que ça revient exactement à ce que je vous disais, c'est que, bien sûr, on veut des partenaires commerciaux, on n'est pas contre les accords de libre-échange. Il y a eu récemment, avec la Nouvelle-Zélande ou le Chili, des accords de libre-échange de l'Union européenne. La question, c'est encore une fois celle de respecter des règles de commerce équitable. Le Mercosur, la raison pour laquelle on est opposé en l'État, et on est loin d'être seul, vous avez beaucoup de partenaires européens qui partagent ces mêmes préoccupations. Vous ne pouvez pas dire, d'un côté, on va appliquer en Europe des normes, des standards, des règles à nos entreprises et à nos agriculteurs, et en revanche, on va aller importer des pays du Mercosur des produits qui ne respectent pas ces mêmes normes, ces mêmes standards.
J'entends ce que vous dites, c'était le débat avant...
Et mettre nos agriculteurs dans une situation défavorable.
C'était le débat avant que Trump devienne fou, si je puis dire, avec les droits de douane. Est-ce que ce débat est exactement le même maintenant que nous savons, et vous nous l'avez dit, il faut trouver des partenaires qui sont des partenaires ailleurs?
Mais moi, je pense que ce débat, il est encore plus pertinent. Quand on parle de sortie de la naïveté commerciale et d'être capable de se défendre et justement de commercer sur une base équitable, eh bien précisément avec le Mercosur, avec la Chine, avec les autres partenaires, c'est ces règles-là que nous devons faire respecter.
Une dernière chose là-dessus, parce que je voudrais qu'on parle un tout petit peu de Russie ou d'Ukraine. Quoi qu'il arrive, on est entré effectivement dans une autre ère commerciale. Est-ce qu'on cesse d'avoir de toute façon confiance dans les Américains? Confiance y compris en ce que dira Trump dans 90 jours, quitte à ce que ça change 10 jours après et 10 jours derrière. Est-ce qu'on a perdu la relation de confiance? Avez-vous perdu la relation de confiance avec les États-Unis?
Sur ce sujet, comme sur d'autres, sur les questions géopolitiques, stratégiques, il faut voir qu'on fait face à une transformation de plus long terme de la part des États-Unis. Le protectionnisme, il n'a pas commencé sous Trump. On l'avait vu déjà sous Trump 1, mais on a vu son continuation, son amplification sous l'administration Biden. On a vu certains tarifs douaniers de Trump qui ont été continués par Biden. On a vu l'Inflation Reduction Act, ce plan massif de subventions dans l'administration, dans l'économie et les entreprises américaines au détriment et sans aucune coordination avec les Européens. On a vu, c'est un peu passé inaperçu dans les tout derniers jours de l'administration Biden pendant la transition.
Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? On a toujours confiance ou on a
des contrôles d'exportation sur les microprocesseurs? Mais la question, fondamentalement, c'est d'être capable de défendre nos intérêts. Ce n'est pas une question, en réalité, de confiance, alliée ou pas alliée. C'est de faire en sorte que si on veut être capable d'avoir une relation équitable, il faut montrer qu'on peut se défendre, il faut montrer qu'on peut négocier, qu'on peut assurer des rapports de force, et puis fondamentalement faire de l'Union européenne une grande puissance à l'échelle internationale. J'ai vu un sondage il y a quelques jours d'un think tank qui s'appelle ECFR. On demandait aux citoyens du monde s'ils pensaient que l'Union européenne pouvait faire jeu égal avec la Chine et les États-Unis. Les Chinois disent oui, les Indiens disent oui, les Américains disent oui. Il n'y a que les Européens qui se sous-estiment et qui disent non, on n'est pas capable. Eh bien, ayons un peu plus d'optimisme et de confiance en nous et montrons qu'on est capable de faire jeu égal avec les grandes puissances. C'est ça le test.
Une dernière chose et rapidement, Benjamin Haddad, la tentative d'accord avec la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre est là aussi un échec visiblement de, en tout cas pour l'instant, de Donald Trump. L'attaque de Soumis en est la preuve. Est-ce que c'est le moment de revenir dans le jeu pour nous, les Européens, peut-être même nous, la France?
Mais on l'est fondamentalement. Vous voyez bien le rôle que joue le président de la République avec ses partenaires à la fois pour continuer à accélérer notre soutien à l'Ukraine, le soutien militaire notamment, pour définir des garanties de sécurité de plus long terme pour les Ukrainiens, le dialogue avec les Américains. Et fondamentalement, nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on souhaite des négociations, on souhaite une paix. Mais il y a presque un mois, aujourd'hui, le président ukrainien a dit qu'il était d'accord pour faire une trêve de 30 jours. C'est le président russe qui n'a jamais répondu, qui continue ces bombardements, qui continue d'ailleurs les bombardements meurtriers sur les civils comme on l'a vu ces derniers jours, qui continue à avoir des objectifs maximalistes comme la neutralisation.
Mais du coup, est-ce qu'on continue à essayer de faire une forme de négociation et de faire au moins une trêve, ou est-ce qu'on se dit, de toute façon, les Russes n'y sont pas prêts, donc on n'y va pas?
Mais la seule façon de l'obtenir, et c'est ce que nous disons aux Américains et à tous les autres, c'est de mettre une pression maximale sur la Russie. Pression économique en augmentant les sanctions, pression militaire en continuant le soutien aux Ukrainiens. Aujourd'hui, comme depuis 3 ans, c'est la Russie de Vladimir Poutine qui choisit l'agression, qui tourne le dos à la diplomatie et à la paix. Et quand l'administration américaine parle de paix par la force, eh bien aujourd'hui, c'est le temps de forcer les Russes à se mettre autour de la table.
Benjamin Haddad, vous êtes ministre délégué chargé de l'Europe. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite ce soir, c'est le reportage. Ça se passe dans la communauté chiite de Damas, qui craint de représailles dans l'enclave iranienne de la capitale syrienne. Et pour aller jusqu'à 19h, il y a Lise Roseveille sous les radars.
Oui, on ira au Royaume-Uni, à Birmingham notamment, où l'armée est mobilisée pour faire face à des tonnes de déchets, une grève massive des éboueurs. 17 000 tonnes de déchets s'entassent dans les rues.
Le Monde à 18h50, c'est vous Alexandre Jublin ce soir. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir, bien.
On parle de quoi ce soir?
Les leçons de la guerre en Ukraine selon le général Zaloujny.
Alexandre Jublin, auteur du podcast Le Collimateur, en pension chez nous pour la semaine. On est ravis de vous accueillir. La BO du Monde, c'est Cyril Sauvageau.
Ce soir en Nouvelle-Zélande, en plein recul inquiétant des droits des Maoris, un chanteur néo-zélandais prend le contre-pied avec un album entièrement chanté dans la langue de ses ancêtres autochtones.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue avec Billie Eilish, The Dinner, un extrait de son dernier album en playlist sur Inter.
I'm
Le reportage d'un jour dans le monde est en Syrie, ce soir dans la banlieue sud de Damas, où le quartier de Sayyida Zainab, du nom du célèbre mausolée vénéré par la communauté chiite, est devenu sous la dictature du clan Assad une enclave iranienne à l'intérieur du pays. Des Iraniens, mais aussi les milices du Hezbollah, alliés du régime, qui ont donc pris la fuite en laissant derrière eux la minorité chiite. Elle craint désormais d'être prise pour cible, comme ça a déjà été le cas ces dernières semaines. Et le reste, c'est Manon Chaplin qui raconte.
In this building.
Dans les ruelles du quartier de Sayyida Zainab, il suffit de quelques instants pour remarquer le changement des décors évidents. Des dirigeants du Hezbollah et de l'Iran, il ne reste plus de portraits, plus de drapeaux, plus de slogans. Mais ces immeubles sans portes ni fenêtres et ces chaînes accrochées pour barricader l'entrée. L'appartement de Mohamed Salim se trouve juste à côté, au premier poste, dit-il, pour tout observer.
Ici, c'est le premier immeuble qui a été construit par les Iraniens. Ils habitaient ici avec leur famille, environ 600 personnes au total. Ils ont tout construit eux-mêmes, afin de pouvoir tout contrôler, tout filmer avec leurs caméras. Quand l'ancien gouvernement est tombé, ils sont partis. Et les Syriens sont venus ici tout piller.
Ces Iraniens, alliés du clan Assad, s'étaient, avec les années, ici largement déployés. De concert avec l'ancien régime, la défense du célèbre mausolée chiite, Sayyida Zainab, c'est son nom, a longtemps été le prétexte avancé pour contrôler le quartier. Ces bâtiments étaient devenus leur base, avec à l'intérieur des uniformes, des armes et une poignée de Syriens entraînés puis envoyés sur le front pour combattre les dernières poches de la révolution.
En 2014, je touchais une centaine de dollars par mois pour deux semaines sur le front environ.
Ahmad, c'est un prénom d'emprunt, raconte. Il s'est fait enrôler un matin à Rouken Eddine, un quartier populaire du nord de Damas. Des bus qui faisaient des rondes et des militaires, dit-il, qui forçaient les jeunes hommes à monter à l'intérieur.
Un homme était chargé d'organiser ses recrutements, de distribuer les uniformes et d'armer toutes les personnes recrutées. La plupart du temps, c'était des recrutements forcés, avec signature d'un contrat d'enrôlement. Ils nous envoyaient ensuite dans les zones de combat. Une fois leur mission accomplie, ils revenaient dans leur quartier général, à Sayyida Zainab, pour recevoir leur salaire.
Au lendemain de la chute du régime, ces milices ont pris la fuite, laissant derrière elles leurs immeubles, le quartier, ses habitants et des tensions qui n'existaient pas auparavant. Lunettes de soleil remontées sur le nez, petit col bien apprêté, Mohammad Assab Al-Husseini, chef local de la communauté sunnite, s'emploie depuis 3 mois à créer un dialogue avec ses voisins chiites.
Ici, c'est un quartier mixte. Nous, les sunnites, nous avons vécu toutes ces années en nous sentant opprimés, lésés et persécutés. Avec ces milices, les chiites avaient tous les droits, alors que nous n'en avions aucun. Nous avons vécu dans la fraternité et l'amour, en coexistant pacifiquement avec eux pendant de nombreuses années. Jusqu'à ce qu'arrivent ces Iraniens, le Hezbollah et toutes les autres milices, ils ont tout changé ici.
Affiliée parfois à tort à ces milices, la minorité chiite du quartier craint désormais des représailles. Début janvier, les services de renseignement du nouveau gouvernement ont annoncé avoir déjoué un attentat de l'État islamique. Dib Krayem, directeur du sanctuaire de Sayyida Zainab.
Nous avons peur que les membres de l'État islamique organisent une explosion dans cette mosquée. Nous attendons du gouvernement qu'ils reprennent la situation en main, qu'ils attrapent ces hommes dangereux et les mettent en prison.
À quelques encablures du mausolée, Hussein trie les rayons de sa pharmacie. Les étagères ne se vident plus car les milliers de pèlerins chiites, d'ordinaire débarqués du monde entier pour visiter le sanctuaire, ont depuis quelques mois presque disparu.
Nous avons cessé de travailler depuis l'automne. Cette rue était considérée comme l'une des plus fréquentées par les touristes. Et ce quartier repose essentiellement sur le tourisme religieux. Les hôtels, les magasins et les pharmacies dépendent presque entièrement des visiteurs et des pèlerins.
Hussein poursuit. En quelques mois, mon salaire a été divisé par deux, explique-t-il, avant d'ajouter « ce n'est pas le plus important ». Après plus d'une décennie de guerre, nous souhaitons vivre en sécurité, tout simplement.
Manon Chaplin pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Lise Rolzeil. Élise, c'est d'abord en Éthiopie que nous sommes, où des centaines de maisons sont rasées.
Et leurs habitants expulsés à la va-vite. En cause, un vaste projet de rénovation urbaine à la capitale, Addis Abeba, mais aussi dans plus d'une cinquantaine de villes du pays. Le gouvernement a décidé d'élargir les rues et de le refaire à neuf pour créer ce que les autorités appellent des corridors. Un projet colossal qui demande donc de rayer de la carte les maisons et les commerces sur le chemin. L'ONG Amnesty International dénonce un climat de peur dans le pays. Les Éthiopiens craignent d'être expulsés du jour au lendemain. Des habitants racontent qu'ils ont dû faire leur valise en à peine 3 jours et leur maison a été démolie dans les 24 heures. Les familles doivent déménager en périphérie des villes. Toute leur vie est chamboulée, sans aucune indemnité. Amnesty International assure qu'aucune consultation avec les habitants n'a été réalisée. L'ONG de défense des droits humains exhorte donc le gouvernement éthiopien à suspendre le chantier immédiatement jusqu'à ce qu'une enquête indépendante soit réalisée pour mesurer les conséquences humanitaires d'un tel chantier.
C'est à Birmingham que nous allons maintenant au Royaume-Uni où l'armée est appelée à la rescousse.
Pour faire face à la grève des éboueurs, plus de 17 000 tonnes de déchets s'entassent aujourd'hui dans les rues. Des piles de sacs poubelles, des rats qui se baladent. La mairie parle d'une véritable situation de crise dans la deuxième ville du pays. Mais les soldats n'auront pas à se boucher le nez ou à enfiler des gants. Ils ne sont pas chargés de retirer les sacs poubelles, non. Les militaires mobilisés sont en fait des spécialistes de la logistique. Ils doivent planifier le retrait de tous ces détritus le plus vite possible parce que les autorités s'inquiètent pour la santé des habitants. La grève dure depuis plus d'un mois maintenant. Les éboueurs dénoncent un plan de restructuration qui leur ferait perdre une partie de leur salaire. Un accord a été trouvé ces dernières heures, mais les grévistes doivent encore décider s'ils l'acceptent ou non. En attendant, les poubelles s'entassent.
I'm sorry.
That is not a real person.
Et pour finir, nous sommes à la cour d'appel de New York avec un avocat, c'est celui qu'on vient d'entendre, qui n'est pas un avocat comme les autres.
Oui, en pleine audience, un homme s'avance à la barre. Il accuse son ancien employeur. Le plaignant a prévenu qu'il n'avait pas d'avocat. Les juges s'attendent donc à l'entendre plaider lui-même, mais l'homme demande alors à lancer une vidéo et là, toute la cour voit apparaître à l'écran un monsieur qui commence à plaider. La voix est un peu saccadée, les dents bien trop blanches. Le plaignant a en fait généré son propre avocat grâce à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une vraie personne, confirme-t-il tout penaud. La présidente explose de colère.
Shut that off.
Éteignez cet écran. L'homme gêné a expliqué qu'il avait utilisé l'intelligence artificielle parce qu'il avait peur de ne pas trouver ses mots. Encore un exemple de l'IA de plus en plus présente dans notre quotidien. Et là, ce n'est pas passé inaperçu.
Voilà, bah, j'ai presque de la peine pour lui, en fait.
Oui,
merci beaucoup, Lise. Vous reviendrez demain. Le Monde à 18h49. C'est Alexandre Jublin ce soir et toute la semaine.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Alexandre, vous allez nous expliquer pourquoi l'avenir de la guerre en Ukraine pourrait davantage ressembler à la Première Guerre mondiale qu'au conflit de la fin du XXe siècle.
Oui, c'est en tout cas l'analyse que formule le général Valéry Zaloujny, l'ancien chef d'état-major des armées ukrainiennes, devenu depuis ambassadeur au Royaume-Uni, dans un article paru il y a quelques jours sur le site Defense One, passé un peu inaperçu, bien qu'il soit très intéressant.
Et donc, quel est le diagnostic du général ?
Ben pour lui, la leçon est simple. Il faut que les armées occidentales oublient tout ce qu'elles ont appris depuis la fin de la guerre froide et qu'elles repartent de zéro ou presque en abandonnant leur focalisation sur la supériorité technologique et la sophistication des armes. Alors, pour comprendre de quoi il est question, il faut rappeler qu'à la fin de la guerre froide, les armées occidentales se sont de plus en plus focalisées sur la technologie pour faire face à la supériorité numérique des armées du pacte de Varsovie. Alors pour le dire clairement, le bloc occidental n'ayant pas assez de force pour arrêter le rouleau compresseur soviétique en Europe, il fallait donc être meilleur, plus technologique et plus chirurgical, notamment grâce à une supériorité militaire dans les airs qui aurait usé petit à petit les forces soviétiques et détruit leurs centres stratégiques. C'est notamment ce qu'on a appelé la doctrine de l'Airland Battle. Évidemment, cette guerre à laquelle tout le monde semblait se préparer n'a jamais eu lieu, mais le concept sous-jacent a semblé triompher dans les années 90 de la guerre du Golfe aux Balkans où la supériorité technologique occidentale paraissait garantir toutes les victoires.
Et donc il faudrait en revenir aujourd'hui ?
Oui, selon Zaloujny, la guerre en Ukraine aurait montré l'impasse de ces grands plans de manœuvre qui reposaient sur des armes technologiques qui fonctionnent en réseau pour laisser la place à une guerre statique de tranchées et d'attrition aux forces aériennes de parenté avec la Première Guerre mondiale. Et le centre de son analyse tient en 3 points. Les drones, qui paralysent l'action sur le champ de bataille en ciblant et détruisant presque immédiatement les adversaires en mouvement. Alors, j'exagère un peu, il insiste aussi énormément sur la galère électronique qui brouille et paralyse les communications et qui domine les opérations en Ukraine. Dans tous les cas, ces caractéristiques observées en Ukraine dessineraient selon lui les contours de la guerre de demain, faite d'armes autonomes et remplaçables, un modèle auquel il faudrait se convertir rapidement, je cite, si l'Occident veut survivre.
Alors, est-ce qu'il nous faut désormais appliquer la recette Zaloujny ?
Alors, évidemment, c'est une analyse qu'il faut prendre avec quelques pincettes, pas tellement sur le conflit ukrainien en lui-même. Il y a des limites aux leçons qu'on peut faire à l'ancien commandant en chef des forces ukrainiennes depuis le confort d'un studio de radio parisien, mais plutôt sur son applicabilité générale. D'abord, un point évident, Il a raison sur les drones, et même si un coup d'accélérateur a été mis depuis quelques mois, il est clair que la capacité à produire des drones dans des masses énormes, on parle de millions par an, est encore manquante, notamment en Europe, et que c'est un manque à combler très vite. Cela étant, il faut rappeler que Zaloujny est avant tout un militaire de l'armée de terre, formé à l'école soviétique, et qu'il se concentre étonnamment peu sur la guerre aérienne, qui est pourtant une dimension centrale du conflit russo-ukrainien, car c'est bien depuis les airs qu'on s'inflige de part et d'autre les dommages les plus structurants, qu'il s'agisse de bombes planantes, de drones ou de missiles de croisière ou balistiques, comme le montrent encore les frappes de ce week-end à Soumy. Or, dans le domaine aérien, on peut sans peine supposer que les armées occidentales auraient bien d'autres arguments à faire valoir que l'Ukraine, et pour le dire clairement, tout le concept d'emploi des armées occidentales repose depuis un demi-siècle sur ce présupposé qu'il serait possible d'avoir la maîtrise des airs et à partir de là de dominer le champ de bataille terrestre. C'était pas accessible aux Ukrainiens ni aux Russes, ni en 2022, ni aujourd'hui. Il resterait à voir de quoi les armées occidentales seraient capables face aux Russes, et plus encore face à la Chine.
Alexandre Jublin, du podcast Le Collimateur, avec nous toute cette semaine. Merci beaucoup et à demain. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique. Que fait la planète en tournant? Et c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
La BO du Monde ce soir, Cyril, en Nouvelle-Zélande, à la découverte d'un chanteur d'origine maori qui a décidé pour la première fois d'assumer pleinement son héritage culturel.
Ce chanteur s'appelle Marlon Williams. La carrière de ce trentenaire néo-zélandais a pris son envol depuis une dizaine d'années dans la musique et dans le cinéma, grâce à quelques seconds rôles à Hollywood, mais surtout grâce à ses trois premiers disques chantés en anglais d'une voix de crooner qui rappelle Roy Orbison ou Chris Isaac. What's chasing you? Ooh, what's chasing you? Ooh, I don't understand a single word that you say, baby. Are you talking to me? On est plus proche de Nashville, la capitale de la country, que de la Nouvelle-Zélande. Les influences sont très américaines. C'est donc avec une certaine surprise que l'on découvre le nouvel album de Marlon Williams, sorti il y a quelques jours. Pour la première fois, il est entièrement chanté en téréo, la langue maori de ses ancêtres. L'aventure a démarré en plein Covid, pendant le confinement. Privé de tournée, bloqué chez lui aux antipodes, le chanteur se retrouve en panne d'inspiration et en plein doute. Il se replonge alors dans la culture autochtone qui a bercé son enfance et notamment la musique traditionnelle maori qu'écoutaient ses parents et grands-parents. De cette période d'introspection et de retour aux sources vont jaillir de toutes nouvelles chansons. Mais Marlon Williams devra d'abord dépoussiérer sa pratique de la langue maori qu'il avait pour ainsi dire oubliée depuis les bancs de l'école où il l'avait apprise autrefois.
Résultat, Cyril, c'est donc cet album étonnant qui fait beaucoup parler en Nouvelle-Zélande parce qu'il arrive à un moment bien particulier pour le pays.
Depuis 2 ans, il arrivait au pouvoir d'une nouvelle coalition de droite conservatrice. On assiste à un recul inquiétant des droits des Maoris. La minorité, qui représente un peu plus de 15% de la population, avait bénéficié d'avancées sociétales importantes du temps de la première ministre progressiste Jacinda Ardern. Tout ça est battu en brèche dans les cursus scolaires, les administrations. Le gouvernement s'est même attaqué à la révision d'un traité fondateur signé au 19e siècle entre la couronne britannique et les indigènes.
Et
le contexte, le projet de Marlon Williams a pris une dimension éminemment politique et ce n'était pourtant pas voulu au départ. Les textes sont avant tout personnels et intimistes. Difficile pourtant d'échapper à ce rôle de porte-drapeau qu'on lui assigne désormais en Nouvelle-Zélande. Surtout lorsqu'il chante en duo avec une des plus grandes stars néo-zélandaises du moment, la chanteuse Lord. Elle n'est pas d'origine maori, mais elle a appris la langue à l'âge adulte. Elle a travaillé avec beaucoup de soin les sonorités, la prononciation, et elle partage le micro avec Marlon Williams sur cette ballade particulièrement touchante.
Maringi toto miraka tira maramatsu e kimi akera kahore itoiaha te tuku mihi koropai he koingo
he karanga
kiari peka haramai.
Cyril Sauvageau touche à Malo en ce lundi. Cyril, allez, vous reviendrez lundi prochain.